Bonjour à tous. Paul fut emprisonné 2 ans à Rome. Nous voyons ça dans Actes 27 et Actes 28. Il fut libéré et continua son ministère qui l'amena notamment en Crète. À son départ, il laissera sur place un certain Tite, que nous avions une première fois rencontré en Galates chapitre 2, à qui il écrira un peu plus tard dans une lettre, dans laquelle il lui confie une double tâche pastorale. En attendant les renforts d'Artémas et Tychique, chapitre 3, qui vont le remplacer, il pourra rejoindre alors Paul à Nicopolis, il a une double tâche pastorale. Premièrement, nous voyons ça dans l'épître de Tite au chapitre 1, versets 5 et 6, il doit nommer des anciens selon des critères bien précis. Et deuxième tâche pastorale, il doit enseigner. Enseigner ce qui est conforme, chapitre 2, à l'enseignement authentique. Alors, qu'est-ce que l'enseignement authentique, mes amis? Je vous invite à le découvrir en ouvrant vos Bibles au chapitre 2 de l'épître de Tite, s'il vous plaît. Nous allons lire des versets 1 à 15. Tite 2, 1 à 15. Et je vous invite, mes amis, s'il vous plaît, à ouvrir votre Bible et à la laisser ouverte pendant la prédication. Parce que ce qu'Aurélien y dit, bon, ça va. Mais si on se rend compte que c'est Dieu qui le dit lui-même, alors ça a beaucoup plus de pertinence. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies, pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours digne de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. En effet, verset 11, ou car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans les temps présents conformément à la sagesse, la justice, la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Mon point numéro 1, c'est l'enseignement saint des versets 1 à 10. Versets 1 à 10. Quant à toi, dis ce qui convient à l'enseignement saint, dit Paul à Tite. Alors, en ne lisant que ce verset, on pourrait s'imaginer que ce jeune pasteur, doit immédiatement se lancer dans un grand exposé dogmatique de la proclamation chrétienne, mais des versets 1 à 10, mes amis, ce qu'il doit rappeler concerne surtout l'éthique, le comportement. Alors, ce qui préoccupe, ce qu'il doit rappeler en premier lieu, concerne surtout le comportement qu'un chrétien doit adopter dans l'Église, dans le monde, qui découle logiquement d'une bonne compréhension de la grâce de Dieu que l'apôtre Paul expliquera magistralement des versets 11 à 15. Ce qui préoccupe en premier lieu notre cher apôtre, c'est le comportement des croyants qui fait partie de l'enseignement saint. Alors c'est peut-être dû au contexte, regardez, tournez votre Bible et prenez l'épître de Tite au chapitre 1, regardez le contexte. Il y a des faux docteurs, les faux docteurs enseignent et nuisent à la bonne conduite de la communauté, et ces faux docteurs enseignent, mais, verset 16, chapitre 1, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles, incompétents, pas pour la moindre œuvre bonne. Et regardez le contexte dans lequel vivent les Crétois, verset 12, l'un d'eux, leur propre prophète, a dit, les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes et des goinfres paresseux. Ce témoignage est bien vrai. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Alors, qui va être concerné? Qui va être concerné par l'exposé d'éthique chrétienne que Tite doit mener dans l'Église? Le groupe de jeunes seulement? Les moins de 30 ans? Les jeunes convertis? Les futurs baptisés? Paul va parler à chaque groupe social spécifique dans l'Église, à commencer par littéralement les vieillards. Alors vous savez, dans l'Antiquité, on était vieillards au-dessus de 50 ans. Mais heureusement, l'époque a changé, mes amis. C'est du politiquement correct, ça. Hein, l'époque a changé, mes amis, et ces personnes âgées doivent se montrer sobres. Remarquons ici l'association bien connue, surtout des épîtres pastorales, de la foi, de l'amour et de la persévérance ou patience ailleurs. Le triptyque du comportement chrétien, le triptyque. Trois vertus qui, lorsqu'elles sont conjointes, disait Jean Calvin, le grand Jean Calvin, disait Jean Calvin, font la perfection chrétienne. Deuxième catégorie. Il disait même aussi, je me rappelle, enfin je ne l'ai pas connu, hein. Des fois je ne sais pas. Il disait que la patience ou la persévérance était le sel sur la foi et l'amour. Deuxième catégorie concernée, les femmes âgées qui doivent se montrer consacrées. Alors c'est intéressant dans le grec de constater que le mot employé par pour consacrer qui est traduit par ce terme-là, est un terme relatif à la prêtrise. À la prêtrise. Leur bon comportement à ces femmes est vu comme un service cultuel pour la gloire de Dieu, notamment dans un but que vous trouvez au verset 4. Dans un but au verset 4. Faire école aux jeunes femmes. Faire école aux jeunes femmes. Leur crédibilité est en jeu en tant qu'enseignante, effectivement. Il ne faut pas qu'elle soit dans « fait ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Ou « fait ce que je m'octroie le droit de ne plus faire à cause de mon âge ». On rigole dans la salle. Il y a peut-être de l'expérience. La crédibilité, leur crédibilité en tant qu'enseignante est en jeu, la crédibilité de l'évangile, verset 5, la crédibilité de l'évangile. C'est-à-dire qu'il y a un double impact. Elles ont un impact sur les jeunes femmes qui vont avoir un impact par leur bon comportement dans la société. Alors concluons, mes amis, que vieillesse ne veut pas dire sagesse. Vieillesse ne veut pas dire sagesse. Ces femmes matures doivent veiller comme tout à chacun sur leur comportement afin de remplir au mieux leur vocation. Leur vocation chrétienne. Quant au verset qui concerne les jeunes femmes, le verset 5, il semble, au vu de l'insistance sur certaines choses, travaux domestiques, aimer les maris, enfants, soumises, qu'il y ait eu en Crète particulièrement confusion dans les chaumières. J'avance deux raisons probables. Le bouleversement qu'on minimise peut-être aujourd'hui, le bouleversement que l'Évangile a provoqué dans le monde gréco-romain. Le monde antique, mes amis, ne connaissait pas l'individu. Il fonctionnait de manière hiérarchique. Tout fonctionnait autour de l'homme, le pater familias. Sous ses ordres, il y avait sa femme. Il y avait ses enfants. Il y avait ses esclaves qui n'avaient aucun droit. Et là, je cite mon ami Jacques Nussbaumer qui dit « Parfois, si on regarde la famille antique, le cliché de la famille chrétienne d'aujourd'hui, les deux enfants, le couple, le labrador et la scénique, en prend un petit coup. » Jacques Nussbaumer. Moi, je me décharge. La deuxième cause, alors effectivement, à partir du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on retrouve dans la même maison, puisque c'est des églises de maison? On retrouve l'esclave, les enfants du père de famille, la femme, sans distinction, dans la même pièce, et on entend qu'il n'y a plus ni grec, qu'il n'y a plus ni juif, qu'il n'y a plus ni homme, qu'il n'y a plus ni femme. Alors effectivement, nous comprenons que c'est relatif à l'accession au salut, mais mettez-vous à leur place, il y avait de quoi déstabiliser. Deuxième raison probable, cause possible de ce rappel au verset 5, c'est l'influence des faux docteurs. Il se peut, selon Théodoré, père de l'Église du 5e siècle, qui était en lien avec Jean Chrysostome, père de l'Église du 4e siècle, et qui ont beaucoup combattu les gnostiques. Théodoré dit qu'il se pourrait que dans l'Église de Crète, à cette époque, il y ait eu un pré-gnosticisme naissant qui suggérait aux femmes de s'émanciper des tâches liées à la famille pour accroître leur spiritualité. Voyez un petit peu comment c'est dangereux. Alors, ce qui nous aiderait, à mon avis, à comprendre chapitre 1, verset 11, tournez vos pages. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent, il parle des faux docteurs, Paul, ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'apôtre fustige les faux docteurs qui bousculent des familles entières. Alors, mes amis, Paul rappelle aux femmes crétoises vivant dans cette société antique qui avaient un tableau de la femme parfaite, très proche de ce que l'apôtre avance, que dans une cité qui ne leur laissait pas le choix d'une occupation même partielle, agir différemment aurait pu être une source de scandale et nuire à la propagation de l'Évangile. Alors, sans nier les aspects louables de la femme au foyer, je ne suis pas en train de dire que c'est contextuel, qu'il ne faudrait plus de femmes au foyer aujourd'hui, attention, c'est tout à fait louable, et c'est un vrai travail, Elisabeth Nussbaumer. Oui. Allez, Nussbaumer, aujourd'hui Sans nier les principes bibliques que l'apôtre met en avant dans d'autres épîtres, comme l'autorité dans le couple, on ne peut exclure que le contexte de l'épître et l'époque ont joué un rôle significatif sur la forme de cette injonction, l'insistance. Concluons donc qu'une femme chrétienne de nos jours, qui allierait occupation en dehors et occupation familiale de manière équilibrée, ne serait pas en porte-à-faux avec ce verset remis dans son contexte et le principe général du chapitre 2. Continuons versets 9 et 10. Paul fait-il un plaidoyer intemporel, versets 9 et 10, plaidoyer intemporel pour l'esclavage? Vous croyez ça? Non! De son temps, c'était une pratique courante. Des chrétiens vivent ça, sans possibilité imminente de changement. Vous savez, il y avait une hiérarchie antique qui était très rigide. D'ailleurs, les premiers, vous connaissez la Didaché peut-être, l'écrit des premiers chrétiens, l'écrit pratique, 2e siècle après Jésus-Christ, qui a été retrouvé au XVIIIe siècle dans une bibliothèque par hasard. Eh bien, ces premiers chrétiens parlaient aux esclaves. Vous pouvez le trouver en téléchargement gratuit sur Internet, la Didache. D-I-D-A-C-H-E-E. Il y a un moment donné, ils vivaient ça, ces chrétiens, des premiers siècles. Et donc, on leur parle dans leur contexte. Et ils développent, l'apôtre Paul, je pense, ce principe. Face à un monde souvent injuste, inégalitaire, rigide, le chrétien doit avoir comme principe premier l'intérêt de Dieu, de son Église. Ne pas mettre ses aspirations personnelles, même si elles sont légitimes, en premier lieu. Même si elles sont légitimes. Et surtout ne pas se servir de l'Évangile, parfois pour servir mes aspirations personnelles. C'est ce qui se passait peut-être dans l'église de Crète avec les faux docteurs, ils avaient peut-être une influence aussi sur les esclaves. Vous êtes libres, plus besoin d'eux, mais faites pas attention à vos maîtres, il se pourrait bien. Et parfois je me reconnais aussi, parce que je me sers parfois de l'Évangile pour mes aspirations personnelles, n'est-ce pas ? Je tire un verset que j'ai trouvé, alors je ne le remets pas en contexte parce que ça me dérange un peu, et je fais valoir mes aspirations personnelles et je passe à côté, en fait, d'un principe général. Principe général de Dieu. Et là, notamment, c'est sa gloire. Alors, il faut, comme Jean Chrysostome disait, Jean à la bouche d'or, Jean Chrysostome disait, il faut laisser admirer notre religion. Il faut laisser admirer notre religion. Alors pour les femmes, cela passera par faire les choses qu'elles peuvent faire de manière active. On a un adjectif au verset 4 qui est « faites les tâches au foyer » et qui veut dire « de manière active ». Pour les femmes, cela passera par faire les choses qu'elles peuvent faire de manière active afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Verset 5. Verset 5. Pour les esclaves, ce sera de rester dans cette situation difficile, imposée, sans rébellion, en agissant différemment que les esclaves non chrétiens. Vous savez, il parle de ne pas voler à son maître, etc. Et on a retrouvé des écrits où on sait exactement, on le sait, que des esclaves, c'était pratique courante chez les esclaves de voler leur maître parce qu'ils avaient accès aux bourses. C'était pratique courante de fuir le maître, de parler contre lui. Donc ce n'est pas pour rien que Paul rappelle ces choses-là. Pour la raison de cette injonction pour les esclaves, verset 10, mes amis, verset 10, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. Afin d'honorer la doctrine de Dieu notre Sauveur. Et dans cette mission, tous les chrétiens de Crète sont égaux. Parce qu'ils le sont aux yeux de Dieu. Alors l'apôtre, et c'est très intéressant pour nous dans nos contextes d'église, l'apôtre ne fait pas de grands exposés éthiques généraux, mais il fait un effort de réflexion pour amener le principe de priorité des intérêts de Dieu dans chaque situation particulière. Chaque situation singulière que vit un groupe social particulier. L'apôtre ne fait donc pas de grands exposés éthiques généraux, mais il fait un effort de réflexion pour amener le principe de priorité des intérêts de Dieu dans chaque situation singulière que vit un groupe social particulier. Et on devrait parfois en prendre de la graine, mes amis. Je parle pour moi personnellement. Parfois, à la chaire, on fait des grands exposés éthiques généraux d'éthique chrétienne. Mais les gens, ils ont besoin aussi d'une parole pour leur vie. Savoir comment l'appliquer dans leur contexte. Et parfois, j'entends des jeunes et même des moins jeunes ne pas savoir du tout comment appliquer des principes généraux de l'Évangile dans leur situation particulière. Parce qu'on leur fait des grands exposés. Mais comment moi, je l'applique dans ma vie ? On devrait en prendre de la graine. Alors c'est sûr que c'est plus risqué que de faire des grands exposés éthiques en rappelant les principes généraux. C'est beaucoup plus risqué que de faire de l'éthique particulière. Mais parfois on en a besoin et je pense à un livre, l'éthique de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer qui a pensé l'évangile dans son contexte, c'est-à-dire à l'époque du nazisme. Alors on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il dit dans ce livre, mais il a le mérite de poser des questions dans sa situation. Par exemple, dois-je mentir ou dire la vérité quand la Gestapo tape à ma porte ? Est-ce que je dois dire qu'il y a quelqu'un qui se cache chez moi ? Le père du mensonge chez le diable. Mais en même temps, comment je me situe par rapport au fait d'aimer mon prochain comme moi-même ? C'est une réflexion. Alors, ça fait bouger les lignes, c'est plus risqué. Et parfois, on peut se prendre aussi des baffes, on peut se tromper. Mais je pense qu'il faut le faire, dans nos contextes. Il faut le faire, mes amis. Alors, vous vous posez peut-être une question, mais Aurélien, n'a-t-on pas le droit alors d'aspirer à la justice par rapport à des situations personnelles, à quelque chose de plus équitable, comme les esclaves, de plus équilibré ? Je vous dirais bien sûr que si ! Par exemple, je trouve que la situation des ouvriers français n'est pas satisfaisante, que la répartition pauvre-riche n'est pas satisfaisante, c'est mon point de vue personnel. Est-ce que c'est pour cela que je vais déchirer la chemise de mon patron ? Est-ce que je vais voler dans la caisse ? Est-ce que je vais inciter les autres à partir de leur travail pour se retrouver dans une situation précaire où ils vont être assistés de la société ? Est-ce que je vais faire du travail au noir parce que je me sens lésé ? Chaque situation particulière doit être pesée à la lumière de ma mission principale, la gloire de Dieu. Quitte à ce que mon moi en pâtisse, quitte à ce que mon moi en pâtisse, mes amis. Point numéro 2, versets 11 à 15, la grâce comme éducateur. Versets 11 à 15, point numéro 2, la grâce comme éducateur. Et nous en arrivons au cœur de cette éthique. La motivation, la raison de l'éthique chrétienne, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, point d'ancrage pour les œuvres, bien marqué par le verset 11. En effet, Paul nous dit quelque chose, car, en effet, motivation, raison principale de ce que je viens de dire plus haut. Quelle est cette raison ? Quelle est cette motivation de l'éthique, mes amis ? Nous avons parlé pendant tout le congrès. C'est une question. Ils sont disciplinés. La grâce de Dieu, son amour. Si ma motivation pour l'éthique est la peur, ou la tradition, ou parce que ma mère et mon père me regardent, c'est mal barré. Ça tient pas ce genre d'éthique. C'est peut-être pour ça qu'il y a tant de gens qui lâchent tout. Clément d'Alexandrie, l'évêque d'Alexandrie du IIe siècle, disait « Si tu es motivé pour l'éthique par la peur d'être châtié, alors c'est toi que tu adores. C'est toi que tu adores. Je suis motivé par le Dieu de l'univers, verset 11, qui est hors du temps, lui qui est hors du temps, infini, est venu dans le temps, dans le fini. Lui qui est un Dieu immuable, il est venu dans ce qui change si vite pour se donner. Lui, l'offensé par notre péché, a pourvu à une solution pour les offenseurs. Et la solution, verset 14, c'est lui-même, parce que Jésus est Dieu. La solution, c'est lui-même. L'offensé a pourvu à une solution pour que les offenseurs qui ne le cherchaient pas soient sauvés. La solution, c'est lui-même. Celui qui s'est fait molester parce que, comme le dit Henri Blocher, le péché, c'est un crachat au visage du Créateur. un crachat. Celui qui s'est fait molester est venu dans le monde nous sauver. Oui, car Jésus est notre grand Dieu et sauveur, verset 13. Notre grand Dieu et sauveur. Je pense aussi à Lefèvre d'Estaples, 16e siècle, qui a converti Guillaume Farel. C'est pas rien quand même de convertir Guillaume Farel. Il disait, le béni est venu et il s'est fait maudit pour que les maudits soient bénis. N'y a-t-il pas raison de perdre la raison ? Cette substitution pénale incroyable m'a racheté et purifié. L'Esprit de Dieu est venu rendre effectif l'œuvre du Christ en moi en me sortant de mon incapacité totale de lui plaire, afin que je me passionne, verset 14, que je me passionne pour des belles œuvres. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, zélé pour des belles œuvres. Alors mes amis, on prêche parfois beaucoup le pardon. Viens Jésus, tu seras pardonné. Mais est-ce qu'on prêche, viens à Jésus, tu seras purifié ? Attention, mes amis, de ne pas prêcher une grâce incomplète. Et je me pose même la question que si je prêche une grâce incomplète, est-ce que je prêche la grâce ? J'ai été rendu capable d'eux. Alors, mes amis, le salut, ce n'est pas une sanctification de ma médiocrité. Le salut, ce n'est pas une sanctification de ma médiocrité. Une sanctification de la mondanité. L'Évangile est une puissance de salut et de vie nouvelle. Mis à part pour vivre l'éthique du royaume, j'ai été mis à part, saint, mis à part pour vivre l'éthique du royaume, pas pour me reposer sur mes lauriers, vivre la supra-éthique, comme dit Paul Ricoeur. La supra-éthique de Dieu. Qu'est-ce que la supra-éthique de Dieu ? C'est cette éthique qui, pour l'homme de la bonne moralité, parce que l'homme de la bonne moralité que vous rencontrez dans la rue est capable aussi de faire de bonnes choses. Il y a des gens de bonne moralité. Mais cette éthique à laquelle Christ nous appelle, c'est une éthique, mes amis, qui, pour l'homme de bonne moralité, est scandale. Pour l'homme de bonne moralité, elle est scandale parce qu'elle dépasse sa raison, notamment quand Jésus dit « Aime ton ennemi, prie pour eux, bénis tes ennemis ». Ça dépasse l'homme de la bonne moralité. Ça dépasse sa raison. Et comme Martin Luther disait, ce qui dépasse ta raison, c'est la déraison de Dieu, mais c'est en fait la véritable raison. Bon, il était un petit peu compliqué, Martin Luther, hein ? La déraison de Dieu, la déraison de Dieu. Ça dépasse notre raison. Ou, comme Blaise Pascal le disait, c'est raisonnable parce que, oui, c'est raisonnable, c'est pas forcément, ça dépasse pas forcément notre raison, c'est juste qu'à un moment donné, la raison accepte qu'il y a des choses qui dépassent sa raison, donc c'est raisonnable. Il était compliqué aussi, Blaise Pascal, hein ? Mais comme les premiers chrétiens le disaient dans la Didaké, c'est le privilège, l'éthique du royaume, c'est le privilège de ceux que l'Esprit a rendus prêts. Que ceux que l'Esprit a rendus prêts. C'est la grâce, verset 12, c'est pour ça que le titre c'était « Grâce comme éducateur », c'est la grâce, verset 12, qui nous instruit dans ce sens. La grâce ici, mes amis, est personnifiée. Elle est personnifiée, regardez. Elle est vue comme un éducateur, Paul nous dit, elle nous enseigne. Je vous assure que ce n'est pas parce que j'étais éducateur avant que je vois ça dans le texte. Elle est vue comme un éducateur et elle nous dit cette grâce, elle nous dit, elle nous parle, elle nous dit des choses tous les jours, elle nous dit sans cela c'est que Dieu s'est constitué un peuple, verset 14. Dieu s'est constitué un peuple, c'est la terminologie de l'Exode ici. Dieu s'est constitué un peuple dont je fais partie au prix du sang de son fils. J'ai été sorti, non pas d'Égypte, mais du royaume du diable. J'ai été sauvé, non pas de l'esclavage du Pharaon, mais de celui du péché et de la mort. Et j'entends et nous entendons aujourd'hui. Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays, de la maison des esclaves. Vis, vis cette liberté offerte au prix du sang. Vis-la et prêche-la. Tite doit prêcher cette grâce qui coûte, pour reprendre un terme cher à M. Dietrich Bonhoeffer. Tite doit prêcher cette grâce qui coûte, à l'inverse des faux docteurs, parce que les faux docteurs, c'est la grâce à bon marché. Ouais, on fait des petites réunions spirituelles et on parle de spiritualité, c'est super, mais quelque part, il n'y a aucun changement dans leur vie. Tite doit la vivre aussi, cette grâce, lui-même. Je pense j'ai lu dernièrement un bouquin sur le réveil du Pays de Galles, et une des premières prières de ce réveil, c'était, donc les gens devaient prier comme ceci, enfin en tout cas ils incitaient les gens à prier comme ça, « Réveille-moi et réveille les autres après !» Parce que parfois on dit « Réveille les autres Seigneur, réveille les autres, mais moi je ne suis pas réveillé !» Tite doit le vivre d'abord pour lui, verset 7. Il doit en parler, il doit exhorter, il doit reprendre avec l'autorité du Seigneur en écartant, et écoutez bien mes amis, on n'a pas l'habitude avec ça, en écartant même celui qui pourrait causer des divisions, qui mettrait en danger la communauté dans sa mission. La mission est privilégiée par rapport à ça. Regardez verset 10 chapitre 3. Verset 10, chapitre 3, « Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier, puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti, qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. » C'est Paul qui le dit. Et il parle de la grâce, là, mes amis. Alors, concluons que l'unité, c'est bien. Mais faisons attention que ça ne soit pas au détriment de la vérité. L'unité, c'est bien, mais faisons attention que ça ne soit pas au détriment de la vérité. Il faut une unité dans la vérité. Alors, l'enseignement à communiquer, que Tite doit communiquer, doit être distillé par la parole, mais aussi par le comportement. Par la parole, mais aussi par le comportement. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, nous sommes entre deux saisons. Je ne parle pas du printemps-été. Nous sommes entre deux épiphanies. C'est le terme employé au verset 11 et au verset 13. Nous sommes entre deux épiphanies. La première, verset 11, s'est manifestée il y a 2000 ans. La venue du Christ. Et la deuxième, verset 13, est à venir. Le retour du Seigneur est proche. Et il désire trouver un peuple prêt et respectueux de sa grâce, lui le Dieu, saint, saint, saint. Identifions, mes amis, les mauvais éducateurs. Identifions les mauvais éducateurs dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos églises, qui veulent nous conduire loin de la saine doctrine. Quand je parle de saine doctrine, je parle de la proclamation, du kérigme, mais je parle aussi de la pratique, de la didaké. Kérigme et didaké, c'est l'enseignement saint, mes amis. Je pourrais parler du légalisme. Je pourrais parler du légalisme, qui est un mauvais éducateur, mais je pense qu'on en a beaucoup parlé dans nos milieux. Le légalisme, c'est bien. Mais il me semble que le laxisme, on n'en parle pas beaucoup. Et ça me fait peur. Et j'ai à cœur de parler aujourd'hui du laxisme. Je parlerai peut-être un jour du légalisme. Ne vous inquiétez pas. Mais le contexte s'y prête, puisque les faux docteurs dans l'église de Crète étaient des laxistes. Alors, le laxisme touche tout autant le monde chrétien, où l'on n'est parfois pas loin de la formule de Voltaire. Dieu pardonnera, il est là pour ça. Dieu pardonnera, il est là pour ça. Traquons ce faux éducateur qui a des formules, le laxisme, ce faux éducateur qui a des formules reconnaissables entre mille et qui fait passer notre Dieu pour le Dieu des bisounours. Je vais vous citer quelques formules qu'on peut entendre dans notre cœur, dans nos familles, mais aussi dans nos églises. « Oh, il me connaît, je suis faible, il est amour. » Oh, Aurélien, vivant chrétien, c'était plus facile avant. C'est plus difficile aujourd'hui. Ça, c'est méconnaître gravement l'histoire des premiers chrétiens qui vivaient dans un contexte beaucoup plus dur que le nôtre et qui n'ont pas loin sans faux revu l'éthique à la baisse parce qu'ils y ont vu une puissance dans leur contexte. Une puissance de se soumettre même à un maître, à un magistrat qui nous vaut du mal, qui les envoyait au cirque pour être mangés. Pour notre foi, se soumettre tout en gardant un bon témoignage. Alors c'est loin de ce que proposent certains livres évangéliques sur la puissance. C'est très loin. On ne voit pas des livres « La puissance de se soumettre ». Ben c'est dommage, c'est biblique. La puissance de ne rien dire. Mais c'est la puissance, c'est ça la puissance. Ah, c'est peut-être un peu moins cool. Autre formule du laxisme, de ce faux éducateur. Oh, mais on vit longtemps maintenant. On a des parcours de vie beaucoup plus longs. C'est plus difficile. Vous riez, parce que vous avez peut-être déjà entendu ça dans vos cœurs. L'éthique, autre formule, l'éthique c'est bien pour les plus jeunes, mais pour les plus de 50 ans, c'est pas pareil. Le serment sur la montagne, oh non, c'est pas pour nous. Le laxisme aime pour mettre en valeur ces formules agitées des épouvantails. Et quel est son épouvantail préféré, mes amis ? Le légalisme. Le légalisme. Il agite l'épouvantail du légalisme pour relativiser la vertu. Il fait diversion. Il agite l'épouvantail du littéralisme pour relativiser l'obéissance simple. Oui, mais t'es trop littéral. Ça, il faut remettre bien dans le contexte. Et c'est bien de remettre dans le contexte, hein. Parfois... Il faut peut-être voir qu'il y a peut-être une parole d'obéissance simple. Alors, il aime aussi utiliser nos expériences de malheureuses, de légalisme, pour nous inviter à jeter le bébé avec l'eau du bain, nous rendre allergiques à toute remontrance, à tout exposé éthique. Mes amis, il y a un chemin, un équilibre entre le littéralisme et le libéralisme. Il y a un chemin entre le légalisme et le laxisme, c'est l'Évangile. L'Évangile. Le laxisme transforme les choses de Dieu. Il transforme par exemple la vertu en poids religieux, alors qu'elle est un privilège, elle est une joie. Le laxisme souffre de presbyacousie. Mais qu'est-ce que c'est la presbyacousie ? J'ai demandé à un de mes amis qui est spécialisé, il s'appelle Fred Desmets. Qu'est-ce que la presbyacousie ? C'est quand on arrive à un certain âge. Voyez comment je suis. On arrive à un certain âge et on entend un mot sur deux.
Pardon ?
J'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Que tout le monde a mis son appareil spirituel sur son cœur. Le laxisme souffre de presbyacousie, c'est-à-dire qu'il entend le vient, mais pas le suis-moi. Il entend le vin, mais pas ne pêche plus. Il éloigne nos cœurs de notre mission principale en titillant notre orgueil. Aurélien, tu peux vivre autrement tout en étant spirituel quand même. Tu aimes le Seigneur. Ok, tu fais des choses, mais tu aimes quand même Dieu, tu es spirituel. Il y a bien sûr le diable qui se cache derrière le laxisme. Il prend le laxisme des thèmes bibliques pour les mettre à sa sauce. On a l'impression qu'il parle de la grâce, mais ce n'est plus la grâce. C'est comme une coquille, il n'y a plus rien dedans. La grâce n'est plus un tremplin avec le laxisme pour une vie nouvelle. Elle devient une excuse pour couvrir mes péchés du quotidien. N'y a-t-il rien de plus diabolique, mes amis ? Il y a subversion, pour prendre un terme de Jacques Ellul. Il y a subversion, il y a sécularisation de l'évangile avec le laxisme. Il prend des thèmes, la grâce, le péché, mais ce n'est plus biblique. Il n'y a plus rien dedans, ou autre chose. Soren Kierkegaard, je ne sais pas si vous connaissez ce penseur chrétien, Soren Kierkegaard disait que le laxisme est un éducateur du désespoir. Parce qu'il me souffle subtilement de me vautrer dans le péché. Oh, c'est pas grave. À cause de l'exigence trop haute. Il dit, mais regarde, il transforme la vertu. Il dit, c'est un poids trop haut pour toi, tu n'y arriveras jamais. Et il me plonge dans le désespoir. Mais mes amis, n'oublions pas que le moi devant Dieu ne désespère jamais de sa chair. Il tombe, c'est vrai, mais ne désespère jamais, il ne le peut. Il est devant le celui qui pardonne, il est devant celui qui accompagne, il est devant celui qui éduque, il est devant celui qui rend possible. Possible la marche à la suite du Christ. Alors, ce faux éducateur, le laxisme, sévit et blasphème contre la grâce en la transformant, comme Bonhoeffer disait, en une grâce à bon marché. Un pardon au rabais. Et je dirais, pour ma part, il transforme la grâce en un ticket pour le ciel. C'est simplement un ticket pour le ciel, en oubliant l'éthique. Mes amis, la grâce est grâce, mais elle coûte. Parce qu'elle est gratuite, c'est vrai, mais elle coûte parce qu'elle exige notre vie entière. Et maintenant, thématique de ce matin, et maintenant, suivons le sillon creusé par l'apôtre. Fidélité dans la transmission, ce n'est pas à moi d'arranger la grâce. Suivons le sillon creusé par l'apôtre. Fidélité dans la transmission de l'enseignement authentique. La grâce et la vie par la grâce. Et rassemblons ceux qui veulent aller dans ce projet. Prêchons-le à nous-mêmes. Prêchons-le d'abord à nous-mêmes, mes amis. Que les gens dans nos églises le voient, voient nos changements de vie. Prêchons-le dans nos familles. Prêchons-le dans nos églises, avec l'aide de Dieu, sans compromis. Malgré les oppositions qui vont inévitablement se lever, mes amis, si vous prêchez l'évangile, si vous prêchez la saine doctrine, c'est-à-dire la proclamation, mais aussi l'éthique, de manière fidèle, il y a des gens qui vont se scandaliser dans vos propres communautés. C'est une certitude. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux. C'est inévitable, comme dans l'église de Crète. Mais mes amis, l'enjeu est grand. L'enjeu est grand pour nous et pour les générations futures. Alors je finirai par citer un verset de la Didaké, de ce livre des premiers chrétiens. Il nous parle encore aujourd'hui et il disait « Que nos lampes ne s'éteignent pas, que nos reins ne se dessaignent pas, que vienne la grâce et que passe ce monde. » Amen.